Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme?
Maison, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Nous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle rentrée, nouvelle saison de notre émission On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris et à l'occasion, quelques changements dans l'émission. Et oui, car ma brillante acolyte Mao est partie sur d'autres fronts car on lui a offert une jolie chronique hebdo sur France Inter qui est chaque lundi matin, en plus de son autre travail. Et comme il faut faire attention à sa santé et ne pas trop se charger, elle a fait le choix bien raisonnable de laisser sa place. C'est alors qu'apparaît ma nouvelle et tout aussi brillante acolyte. Je vous présente Marion qui co-animera cette émission avec moi cette année. Salut Marion!
Salut Pauline, salut à tous, et je suis très heureuse d'être avec vous pour cette nouvelle saison.
Et avant de commencer, je te laisse te présenter pour que nos auditoristes en sachent un peu plus sur toi.
Merci Pauline. Je m'appelle Marion, je travaille dans la culture, je suis féministe et déjà fan de l'émission. Alors je suis très heureuse de te rejoindre cette aventure, et surtout avec Radio Campus. J'étais déjà venue dans ces locaux il y a plus de 15 ans pour un projet de comédie musicale. Et aujourd'hui, je suis devenue une grande lectrice de livres féministes, comme toi Pauline, et je suis ravie de venir interviewer des artistes et autrices engagées.
Et on est très heureuse de t'avoir avec nous, et sans plus attendre, c'est l'heure de commencer cette première émission de la saison.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Pour parler de tout ça, nous sommes heureuses d'accueillir Blanche Léridon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, mais aussi directrice éditoriale de l'Institut Montaigne et enseignante à Sciences Po. Et vous avez publié le 23 août dernier un essai intitulé « Le château de mes sœurs, des Brontës aux sœurs Kardashian, enquête sur les fratries féminines » aux éditions Pérégrine.
Alors, il n'y a pas d'équivalent féminin au mot « fratrie », pas de mot pour nommer un groupe de sœurs. Alors que fraternité demeure un des piliers de la République française, encore une fois, les femmes en sont écartées. C'est un symbole quand même très fort et marquant. Encore une fois, on ne veut pas donner de mots aux femmes. Par exemple, on s'est dit avec Pauline qu'on manque aussi de mots pour décrire les différentes étapes de la vie d'une femme. La fille, qui est donc à la fois la fille de ses parents et la fille au sens de jeune femme, devient juste une femme. Et le mot même recouvre l'âge adulte et le statut d'épouse. Alors que côté masculin, on distingue bien le garçon du fils, puis l'homme du mari.
Et donc on n'a pas de mot féminin pour la fratrie, et c'est aussi inédit de faire toute une étude des sœurs et de leur représentation. Blanche Léridon, comment ça vous est venu l'idée d'écrire sur ce sujet ?
Déjà, bonsoir à toutes les deux et merci infiniment pour votre invitation.
Merci à vous.
Vous l'avez mentionné, moi, le point de départ de ce livre, c'est vraiment la défaillance de la langue. Et c'est très intéressant ce que vous ajoutez sur cette incapacité à nommer, à définir les états différents de la vie d'une femme. Et je crois qu'il y a une infinité de lacunes supplémentaires. On ne va pas revenir sur toutes celles-ci, mais effectivement de lacunes de la langue lorsqu'il s'agit du féminin. Donc moi, le point de départ, c'est vraiment l'absence. Moi-même, je suis la cadette d'une fratrie de trois filles. J'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur, et j'ai toujours eu le sentiment que cet état de sœur était très constitutif de mon identité, et j'ai toujours été un petit peu embêtée par l'absence de mots précis pour nous qualifier, nous désigner. Et donc, l'idée de ce livre, c'était de se dire, il n'y a pas de mots, on va ériger un livre, un château, c'est aussi le titre qui revient là-dessus, et ce château, il va essayer de comprendre à la fois ce que c'est que d'être sœur dans la réalité du vécu, du quotidien familial, à l'extérieur aussi de la famille, et puis aussi et peut-être surtout la façon dont on les a représentées. Et c'est là que ça se complique et qu'on rentre dans des choses extrêmement stéréotypées, sclérosantes, je crois, pour les jeunes filles, pour les femmes. Et donc l'idée, c'était un peu d'essayer de bousculer ces stéréotypes ou de voir un petit peu celles qui avaient osé le faire avant moi pour inverser un certain nombre d'images, de stéréotypes et de présupposés qu'on pouvait avoir sur ces fratries féminines.
Vous commencez le livre par « Toutes les petites filles qui ne sont pas nées ». On sait qu'il y a déjà eu par le passé, en Chine ou en Inde par exemple, beaucoup d'avortements sélectifs de petites filles. C'est évidemment un exemple extrême, mais en France, on a quand même cette expression étonnante du choix du roi. Avoir une seule fille et un garçon. Et ce que vous expliquez dans le livre, c'est qu'une seule fille, c'est bien, ça suffit, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Vous parlez d'exemples d'orgueil et préjugés, et vous dites même que les filles nombreuses sont dangereuses.
Exactement, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la multitude. C'est-à-dire que plus vous aviez de filles, jusqu'à une période très récente dans nos sociétés contemporaines, plus en réalité le fardeau logistique, financier était lourd pour vos parents. Et vraiment, Jane Austen dans Orgueil et Préjugés avec les cinq sœurs Bennet en est l'illustration la plus virtuose, je crois, puisqu'il ne s'agit pas seulement de marier l'ensemble de vos filles, mais aussi de les marier dans le bon ordre et d'être en capacité de leur offrir une dot suffisamment conséquente pour qu'elles puissent être promises à de beaux mariages. Donc c'est vrai que c'est ce que j'essaie de démontrer, cet immense paradoxe de la multitude, où en réalité ce qui devrait faire votre force, être constitutif de votre puissance, à savoir le nombre, le collectif, le groupe, soudé en plus, parce que dans ce film-là, en l'occurrence, on a des sœurs, pour filer un petit peu cet exemple-là, qui sont plutôt soudées, qui s'aiment, qui ont une véritable intimité les unes avec les autres, mais même ce modèle-là, on a voulu lui trouver des travers et des éléments négatifs, et donc c'est pas d'ailleurs uniquement cantonné à l'Angleterre victorienne du 19e siècle. Je mentionne aussi un grand roman japonais de Tanizaki, Les Sœurs Makioka, dans le Japon de cette même époque, c'était exactement la même chose. Donc on voit que cette terreur à l'égard de la fratrie féminine, elle traverse en réalité, en tout cas jusqu'à une période très récente, toutes les sociétés. Vous avez mentionné les deux exemples les plus extrêmes que sont l'Inde et la Chine, pour des raisons un petit peu différentes. La Chine, c'était notamment du fait de la politique de l'enfant unique en raison du bagage culturel et de l'histoire sociale du pays, avec la capacité pour les fils d'assurer les rites funéraires et préserver l'âme des défunts. Il fallait en priorité avoir des fils. Et puis l'Inde, c'est la question de la dot, encore une fois, qui pèse énormément et qui a pu effectivement conduire à soit des avortements sélectifs, soit des infanticides, ou de la maltraitance infantile à l'égard des petites filles. Mais ce que je montre, c'est que même si les manifestations les plus extrêmes de cette réticence à l'égard du féminin pluriel, elles sont évidemment un peu derrière nous, on en trouve encore des relents très, très importants. Je cite dans mon livre un ouvrage qui s'appelle « Le genre du capital », qui est sorti il y a 3 ans, qui est vraiment un ouvrage passionnant, qui montre qu'encore aujourd'hui, quand vous avez des fratries avec 3 filles et 1 garçon, que vous êtes commerçant, artisan, profession libérale, on va aller plus naturellement confier la reprise de l'entreprise familiale aux garçons plutôt qu'aux filles, indépendamment de toute qualité, formation ou prédisposition naturelle à s'en emparer. Et ça, je crois que c'est encore le pas qu'on doit garder en tête et qu'on doit continuer à combattre.
Et en fait, dans votre bouquin, vous parlez beaucoup de la loi salique, qui est quelque chose qui s'applique plutôt dans le passé, mais en fait vous dites aussi que plus que la loi salique, c'est les mécanismes du capitalisme qui maintiennent les fratries des femmes dans la pauvreté, c'est ça ?
Exactement, et alors la loi salique, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait on montre à quel point on est allé chercher dans les entrailles de l'histoire une loi dont on a totalement falsifié la signification pour en faire une espèce de loi des reins qui prive les femmes de l'héritage du trône, alors qu'en réalité tout ça n'est que construction et n'est que interprétation falsifiée d'un texte qui à l'origine était très éloigné de la façon dont il a été ensuite interprété et surtout dont il a perduré pendant des années. Et c'est vrai que je m'intéresse dans la période cette fois-ci beaucoup plus récente, à la façon dont le capital est transmis, notamment le capital des entreprises plus ou moins grosses d'ailleurs, et où l'héritage passe encore souvent majoritairement par les fils au détriment des filles.
Oui, vous parlez d'un cas pratique, d'une boulangerie qui transmet toute la boulangerie à ses fils, alors que les femmes ont, les filles, elles ont beaucoup plus d'intérêt à les avoir, c'est ça ?
Exactement. Alors ça, c'est un exemple que j'emprunte à ce livre, donc le genre du oui. capital. Oui. C'est elles qui ont fait tout ce travail vraiment impressionnant de collecte aussi, de données sur ce qui est ce qui est accessible, hein, parce que tout ça se fait souvent dans l'ombre des études notariales, avec un peu de complaisance des acteurs et des protagonistes. Mais oui, ce qu'elle explique, c'est que donc, dans cette famille, je ne sais plus si elles étaient trois filles, il me semble que c'était trois filles et un garçon, on donne au garçon la boulangerie plus une pâtisserie, enfin quelque chose qui vient en plus augmenter la valeur nominale de l'héritage. Et puis on dit, bon, les filles, on va se débrouiller, on va leur donner des pains au chocolat, des croissants, et je caricature, mais c'est un peu ça. Et on se dit, on va leur donner de l'argent, mais on va pas leur donner des biens matériels. Et ça, je trouvais ça extrêmement révélateur et préoccupant, parce que cette famille qu'elles décrivent dans leur livre, parce qu'il y a deux co-autrices, c'est quelque chose de très récent.
Pour revenir aussi à aujourd'hui et les modèles de féminité qu'on retrouve dans ces fratries de sœurs, vous évoquez les fameuses petites filles modèles de la comtesse de Ségur, Camille et Madeleine, donc des personnages quand même écrits en 1858 et qui sont des représentations qui, malgré tout, résistent aux différentes vagues du féminisme. Est-ce que pour vous, on est toujours imprégné aujourd'hui de ces représentations de sœurs, malgré les autres images qu'on a pu avoir depuis, des petites filles modèles ?
Alors en tout cas, moi, à mon humble échelle, je sais que petite fille, dans les années 90, j'avais les histoires de Camille et Madeleine de Fleurville. Alors il y a aussi celle de leur amie Sophie, qui elle est un petit peu plus impertinente et déroge au modèle. Mais d'ailleurs, la comtesse de Ségur elle-même a toujours reconnu que le personnage le plus inspiré de sa jeunesse à elle, c'était le personnage de Sophie, mais qu'elle le mettait en scène précisément pour convaincre ses petites lectrices qu'il ne fallait pas suivre les travers de Sophie, qu'il fallait plutôt s'inspirer des modèles de vertu, de déférence, de discrétion, de sagesse de Camille et Madeleine de Fleurville. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un effort qui est fait dans la littérature pour enfants notamment, et on essaie de renouveler un petit peu ces personnages. Mais là, on parle d'une empreinte qui a quand même plus d'un siècle, et on sait à quel point il est difficile de s'émanciper des carcans et des modèles, d'autant plus quand ils ont perduré pendant aussi longtemps. Après, voilà, moi je dis, alors, il a plein de défauts, mais un personnage comme celui de la Reine des Neiges, dont le dénouement et la survie ne dépend non plus d'un prince charmant qui viendra la sauver, mais de sa sœur et de la capacité de sa propre sœur à lui faire preuve de son amour et de son amitié, ça, je trouve ça réjouissant. Alors après, la Reine des Neiges, dans tout ce qu'elle renvoie de clichés esthétiques, de conformité, il y a plein de choses encore à résoudre. Mais ne serait-ce que pour ça, moi, j'essaie d'attraper tout ce qui m'incite un peu à l'optimisme et à la construction dans tout ce qu'on me donne comme matériaux un peu féminins. Et ça, je trouve que c'est quand même réjouissant, d'autant plus quand on sait le public extraordinaire que c'est en capacité d'atteindre. Et donc que des petites filles aujourd'hui se disent « Ah ben tiens, en fait, moi, je n'ai pas forcément besoin de compter sur un prince charmant pour donner du sens à ma vie, mais ce sens, il peut venir de ma propre sœur, en plus ma petite sœur, c'est pas anodin. » Ça, je trouve ça quand même assez encourageant, mais il y a encore énormément de chemin à parcourir.
Et dans votre description des fratries de sœurs, tant dans vos interviews que dans vos analyses des différents récits que vous avez lus dans votre enfance ou plutôt enfin, dans votre vie en général, votre description, ça nous avait pensé au syndrome de la Schtroumpfette. Donc, pour rappel, c'est un concept féministe très utile. Dans les bandes dessinées des Schtroumpfs, chacun a sa personnalité, chacun a ses caractéristiques propres. Donc, il y a le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf paresseux. On a plus de 100 Schtroumpfs et une seule Schtroumpfette. Comparé aux autres Schtroumpfs qui ont des vraies personnalités, la Schtroumpfette, elle a comme unique caractéristique d'être une femme. Et on voit cette théorie de la Schtroumpfette reprise comme analyse féministe dès qu'il y a une seule femme dans une histoire ou dans un film, ou comme Marion le disait, au conseil d'administration du CAC 40. Vous dites justement que dans une fratrie de petites filles, comme dans les fratries de manière générale, les enfants, ils ont une sorte de caractère prédéfini, comme il y a le middle child syndrome, le fait que l'aîné est considéré comme plus conservateur, le plus jeune comme étant plus insouciant. Pour vous, tant dans la littérature que dans les cinémas, les séries, et même aujourd'hui, est-ce que c'est une manière de pas trop creuser le caractère des jeunes filles, de surtout pas creuser la surface ?
Absolument, il y a une forme de variété dans le stéréotype, mais qui est vraiment extrêmement faible. C'est-à-dire que vous l'avez dit, la variété, elle va se jouer selon votre positionnement dans la fratrie, de façon, là encore, tout à fait superficielle, parce qu'il y a des études, et je les cite dans mon livre, qui prouvent qu'en réalité, votre rang d'apparition ne conditionne pas entièrement ni votre caractère, ni votre destinée, et heureusement qu'une telle part d'arbitraire n'a pas un rôle aussi décisif sur votre vie. Mais quand on les représente, et moi je cite souvent les sœurs Ingalls, parce que c'est le plus marquant, avec la petite dernière qu'on voit chuter en courant dans la prairie, donc elle, parce qu'elle est la petite dernière, elle sera sans cesse assimilée à la drôlerie, à la légèreté, à l'humour, et ça je sais que ça peut, étonnamment, ça peut aussi peser énormément sur celles à qui l'on attribue comme par défaut ce type de... Parce qu'il y a des moments où vous n'avez juste pas envie d'être le clown drôle, de la bande. Et si vous êtes triste, si vous êtes malheureux, il faut qu'on respecte aussi ces moments-là. Et la même chose pour les aînés, c'est-à-dire l'aîné qui devrait être une petite mère par procuration, qui devrait s'occuper de ses frères et de ses sœurs, toujours sérieuse. Ça aussi, ça peut être extrêmement lourd à porter. Et je crois qu'il ne faut surtout pas se cantonner à des visions aussi rigides. Mais ce qui est très juste, j'aime beaucoup, je n'avais pas pensé à l'analogie avec le syndrome de la Schtroumpfette, c'est qu'on voit... qu'on a certes un répertoire qui varie de l'aîné à la Benjamine, mais qu'en réalité, on reste dans des choses qui sont quand même assez normées et qu'il n'y a pas une palette d'expressions et d'incarnations qui soit extrêmement développée et que la petite fille reste quand même assimilée à un idéal de douceur, de gentillesse, de chamaillerie un petit peu espiègle de temps en temps, mais qu'on sort rarement de cet éventail-là. Évidemment... Et on va peut-être en parler un peu plus tard. Il y a un certain nombre de fictions et de représentations qui ont pu aller un petit peu au-delà. Mais, et peut-être un dernier point là, sur les représentations, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a les caractères de chacune au sein de la fratrie, mais il y a surtout ce qu'on présuppose sur la nature des relations au sein de la fratrie, à savoir de la chamaillerie, de la jalousie, de la rivalité. Et ça aussi, c'est un stigmate très important qui pèse sur les fratries de filles et qui, pour le coup, ne pèse pas du tout de la même manière sur les fratries de garçons.
Il y a une fratrie, enfin une assemblée de sœurs que vous évoquez même dans le sous-titre du titre du livre, c'est les sœurs Kardashian. Donc elles ont fait fortune dans la télé-réalité aux États-Unis. Je pense que tout le monde les connaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un peu un pied de nez, cette fratrie de sœurs-là par rapport aux sœurs March, Bennett ou même Bronte?
C'est exactement le contraire de ce que je décrivais au tout début de notre conversation, à savoir ce paradoxe de la multitude. C'est-à-dire que là où pendant longtemps le nombre a été le pire ennemi des fratries de sœurs, et avec les Kardashian, le nombre devient leur allié, ce qui paraît parfaitement naturel et cohérent par ailleurs. Mais pour la première fois, elles inversent ce paradoxe de la multitude et dans cette espèce de gynécée moderne, alors totalement dysfonctionnelle par ailleurs, faut faire attention, on a pu mal comprendre ça. Je ne fais pas l'apologie des Kardashian, elle aussi, et peut-être davantage encore que la Reine des Neiges. Voilà, elles ont une vision de la féminité qui est... Mais bon, elles ont au moins cet avantage-là, d'avoir su tirer de leur collectif de femmes leur puissance, leur notoriété, leur empire. Et je trouve ça assez réjouissant. Et ça veut dire que pour les petites filles qui le regardent, alors il y a plein de choses qu'il ne faudrait pas qu'elles regardent. Il y a beaucoup de vulgarité. Il y a un rapport au corps des femmes qui est, à mon avis, extrêmement problématique aujourd'hui. Mais il y a cette affirmation d'une puissance au féminin qui se construit par le groupe, avec le groupe, et qui n'existerait pas sans lui, que je trouve quand même plutôt positif. Et puis aussi, il y a la place totalement subalterne des hommes, que je trouve très honnêtement assez drôle à regarder, et notamment ce père qui est très gentil, qui est très impliqué, mais qui ne prend jamais aucune des décisions un petit peu importantes pour la vie du foyer, où le pire étant ce pauvre frère Robert Junior, qui n'a même pas droit au K majuscule, c'est-à-dire que l'attribut de leur puissance est aussi cette lignée par le K, les Kim, les Chloé, les Courtenay, et lui, non, il n'a même pas ça, il apparaît d'un épisode à l'autre, puis il disparaît, il a fallu sur son canapé.
Il n'est même pas là toutes les saisons.
Voilà, il n'est pas là toutes les saisons, et ça, je dois avouer que je trouve ça un tout petit peu réjouissant.
Blanche Léridon, vous restez avec nous. On va pendant quelques minutes se replonger dans les mythes antiques et dans toutes les représentations de sœurs qui ont été faites avec notre chroniqueuse Chloé. Salut Chloé.
Bonjour. Donc quand Pauline m'a annoncé que le thème de l'émission porterait sur les fratries féminines, j'ai poussé un grand soupir de soulagement. Donc l'année dernière, on a pu avoir des thèmes comme la diet culture ou l'avortement. Donc là, les références antiques n'étaient pas toujours faciles à trouver. Mais pour aujourd'hui, j'avais vraiment que l'embarras du choix, parce que dans la mythologie des femmes, il y en a vraiment beaucoup.
De rien.
Eh bien, ravie de t'avoir facilité la tâche. Alors, tu penses à quelle sœur, par exemple?
Alors, dans la mythologie grecque, les déesses vont souvent en fratrie féminine, qui sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins personnifiées. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même certaines sont vraiment essentielles à la marche du monde et sans rapport avec le cliché de la rivalité féminine. Donc on peut par exemple penser aux trois parcs qui déroulent et tranchent le fil des vies humaines, aux neuf muses qui président aux arts, aux gorgones et à bien d'autres. On a aussi des humaines comme Hélène et Clytemnestre ou Ariane et Phèdre, les Danaïdes, etc. Donc cette pléthore de sœurs, bon, ça montre bien sûr que la famille est une valeur clé dans la culture antique. Les mythes sont bien souvent des histoires de famille, donc, et parfois d'autant plus difficiles à démêler que les dieux sont immortels, donc les générations se mélangent. Mais quoi qu'il en soit, les sœurs, il y en a des Pléiades. Et d'ailleurs, les Pléiades, ce sont des sœurs, et ça pourrait être l'un des plus vieux mythes de l'humanité.
Alors comment ça? Parle-nous un peu plus des Pléiades, du coup.
Donc les Pléiades, ce sont les sept filles d'Atlas, le titan condamné à porter la voûte céleste pour l'éternité. Il y a plusieurs versions du mythe, mais pour l'essentiel, elles se concentrent sur un thème plus que sur un récit à proprement parler. Donc celui de sept sœurs qui sont poursuivies par un chasseur, qui est Orion. Donc à leur mort, elles sont placées dans le ciel pour former un amas d'étoiles. Orion est lui aussi représenté dans le ciel, poursuivant les sept sœurs. C'est la constellation d'Orion. Donc dans l'une des versions de ce mythe, l'une des sœurs épouse un mortel, Sisyphe, et disparaît. Cela pourrait correspondre au fait que l'une des étoiles est devenue historiquement invisible à l'œil nu. Et ce qu'il y a de surprenant dans cette histoire, c'est que récemment, des chercheurs australiens ont repéré des similarités entre le mythe grec des Pléiades et des mythes aborigènes d'Australie. Donc certains de ces récits raconteraient l'histoire de sept sœurs, dont l'une soit est morte, soit a été enlevée, ou bien elle se cache d'un homme, ou bien de trois hommes qui la pourchassent, si bien que seulement six des sœurs sont visibles.
Mais comment est-ce que des cultures aussi éloignées que les aborigènes et la Grèce antique peuvent avoir et partager le même récit ?
Donc selon ces chercheurs, des récits similaires sur une Pléiade disparue, entre guillemets, se retrouveraient en fait dans de nombreuses traditions. Donc que ces traditions nous viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie ou encore qu'elles soient amérindiennes. Donc l'explication de ces similitudes serait, selon eux, que ce mythe remonterait à plus de 100 000 ans. C'est la date à laquelle l'étoile en question a cessé d'être visible. Cette date remonte avant les grandes migrations de l'espèce humaine hors du continent africain, ce qui en ferait le mythe le plus vieux du monde. Donc à l'origine de l'une des premières histoires de l'humanité, on trouverait une fratrie féminine. Alors même que, comme vous le rappelez, Blanche, il n'y a même pas de mots dans la langue française pour les décrire. Il devenait donc urgent de les explorer et de leur redonner leur juste place, comme vous le faites dans votre livre.
Merci beaucoup Chloé pour cette chronique. C'est vraiment passionnant de voir à quel point les figures des sœurs sont quand même présentes dans les mythes, et depuis si longtemps, malgré le manque de vocabulaire.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours On se lève et on se casse, et ce soir nous sommes toujours avec Blanche Léridon pour son essai Le château de mes sœurs des Brontë aux Kardashians, enquête sur les fratries féminines aux éditions Pérégrine. Comme on le disait, les sœurs dans l'enfance sont souvent représentées comme un groupe, en tout cas dans la littérature et la pop culture, sans particulièrement s'attarder sur leurs personnages individuels. On parlait du syndrome de la Schtroumpfette, de leur caractère, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de représentations qui traitent des sœurs comme des personnages vraiment à part entière.
Et ce que vous avez observé, c'est que dans l'enfance, les sœurs sont représentées comme des petites filles modèles, on en a parlé, mais arrivées à l'âge adulte, elles sont très vite opposées et deviennent rivales. Donc évidemment, ça tourne souvent autour d'un homme, que ce soit l'amour ou l'argent du père, ensuite le meilleur mari. Comment est-ce que vous traduisez ça aujourd'hui dans la culture ou même la presse people?
Alors peut-être un mot avant, je vais féliciter Chloé pour sa question, c'est passionnant et ça a été moi un gros travail. Et je pense que, en fait, toutes celles que vous avez citées, vous avez raison, sont des sœurs, mais on le sait très peu. C'est-à-dire qu'on n'insiste jamais sur le fait que ce sont des sœurs. Et ça, je trouve que c'est extrêmement révélateur. C'est-à-dire les Trois Grâces, les Pléiades, les Muses, etc. Comme si on évite à tout prix de montrer qu'il y a un lien puissant, fort entre elles. Et ça, je trouve ça... Et même Hélène et Clytemnestre, on ne parle jamais d'elles comme des sœurs. Elles évoluent très indépendamment l'une de l'autre, et il y a peu de récits mythologiques où on les retrouve toutes les deux confrontées, et ça c'est vrai que... et puis en plus, Clytemnestre, elle est un peu dévalorisée, bon, ça pourrait faire l'objet de toute une émission, mais bravo pour votre chronique qui était était passionnante et j'ai appris plein de choses. Je regarderai ce que les mythes aborigènes ont repris effectivement des Pléiades et c'est très réjouissant de voir qu'on peut encore tirer le fil de ces sujets-là. Mais pour en revenir à la période contemporaine, effectivement, on passe des petites filles modèles aux sœurs jalouses et rivales. Alors ça, c'est quelque chose qui est là aussi certainement vieux comme les mythes et qu'on retrouve déjà chez Shakespeare avec les trois filles du roi Lear, par exemple, qui se battent pour l'amour de leur père, avec ce père quand même qui est bien tyrannique et qui leur demande de leur prouver qui des trois l'aime le plus, ce qui est totalement malsain par ailleurs, mais là n'est pas le sujet. Et on voit que cette rivalité qui se cristallise autour d'un homme, que ce soit le père, que ce soit l'amant, c'est quelque chose qui est fondateur et qui traverse toute l'histoire des représentations des femmes dès qu'elles dépassent l'adolescence. Je pense aussi aux deux filles du père Goriot, qui elles aussi sont abjectes et rivales pour dépouiller leur propre et honorable père. Et même en réalité dans l'enfance, quand on pense à Cendrillon et ses deux demi-sœurs, Javotte et Anastasie, c'est exactement la même chose. Il y a la gentille sœur innocente et jolie, et puis il y a les deux mégères acariâtres qui essaient de la dépecer de tous ses attributs un petit peu positifs. Et donc là aussi, Cendrillon, c'est un poids quand même dans vos représentations quand vous êtes une petite fille. Et cette dichotomie, cette binarité qu'on veut créer entre les bonnes et les mauvaises sœurs, on voit à quel point elle parcourt toute l'histoire des représentations de ces sœurs-là. Et c'est pas uniquement la fiction, c'est ça que je montre dans le livre. Ce qui est particulièrement compliqué par ailleurs, c'est que la façon même dont les médias, les commentateurs de toutes sortes vont venir décrire et tenter d'approcher les relations entre des vraies sœurs, passe toujours par ce prisme de la rivalité. Et l'exemple que je mentionne, c'est Pippa et Kate Middleton, où on s'est un peu rué sur cette chair fraîche de Pippa Middleton quand on l'a découverte le jour du mariage princier. Et c'est vrai que tout de suite, on a voulu savoir laquelle des deux est la plus jolie, laquelle des deux est la plus mince, laquelle des deux préférait son père, qui va faire le plus beau mariage. Et à quoi bon, en réalité ? C'est incroyable de se focaliser à outrance sur cette dimension-là de leur relation, alors que j'imagine qu'elle était infiniment plus riche. Je mentionne aussi dans le livre l'exemple de Catherine Deneuve et de sa sœur Françoise d'Orléac. Pareil, parce qu'elles se sont retrouvées au Festival de Cannes la même année en compétition pour deux films différents. On a voulu, de façon totalement artificielle, en faire les sœurs rivales, les sœurs ennemies, alors que quiconque lit un petit peu leur témoignage à l'une et à l'autre et le témoignage de leur entourage se rend compte. Alors bien sûr, je veux pas être naïve, idéaliser toutes les relations entre sœurs et dire qu'elles ne sont qu'entente, cordialité, respect. Il peut y avoir de la jalousie, c'est évident, il y en a partout, il y en a entre tous les êtres humains, mais en faire l'alpha et l'oméga de leur relation, c'est un piège de la pensée dans lequel il faut plus tomber.
D'ailleurs, vous racontez très bien que le cinéma, que ce soit le quotidien des actrices d'Hollywood, que dans les films et dans les fictions, créent donc de toutes pièces des trajectoires de sœurs rivales. Ça n'existe pas la plupart du temps. Vous avez cité Françoise d'Orléac, il y en a plein d'autres en fait dont vous citez Hollywood. C'était vraiment une sorte de ressort narratif à répétition qui sont ressortis. Vous avez parlé de Disney, de Cendrillon. Merci encore. Mais ce qui est fou aussi, que vous observez aussi dans le cinéma, l'autre chose très commune quand on parle de sœurs et de fratrie féminine, c'est de parler d'enfermement et de huis clos. C'est toujours très courant. Alors là, il y a Virgin Suicide de Sofia Coppola, il y en a plein d'autres. Pourquoi on représente autant des fratries féminines enfermées comme ça entre elles dans des trucs très malsains, avec des familles très malsaines aussi?
Déjà parce que ça répond d'une certaine manière à une réalité, c'est-à-dire que la claustration des petites filles, contrairement aux petits garçons qu'on va encourager à sortir, à aller jouer dehors, etc., il y a dans certaines sociétés encore aujourd'hui, et je mentionne un film turc notamment dans mon livre qui met ça très très bien en scène. Il y a une réalité très concrète dans le quotidien et dans le vécu des sœurs qui se passe à l'intérieur des chambres et qui se passe dans une forme d'isolement, de claustration, ou en tout cas de confinement d'une certaine manière, et qui répond aussi à cette peur qu'on évoquait au début de notre conversation, la peur de la multitude, la peur de ces fratries de filles qui, en plus, à l'adolescence, sont très jolies, attirantes, et donc on veut surtout pas les exposer aux dangers du monde et des hommes. Et donc, ce qui a pu, et puis il y a aussi des ressorts narratifs cinématographiques très puissants à créer, des espèces de huis clos un tout petit peu anxiogènes qui flirtent avec le thriller. Donc, je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Et voilà ce que je trouve intéressant là aussi. Alors là, on est moins dans Hollywood, mais si on doit faire un petit pas de côté et comparer avec la façon dont les frères sont représentés, ce que j'ai remarqué, c'est que les frères sont pas épargnés par la rivalité, mais on positionne la rivalité à un niveau totalement différent. C'est-à-dire que les sœurs, c'est de la chamaillerie, et en gros, on se dispute pour un homme, père, amant, peu importe. Là où les hommes, que vous regardez, que ce soit le mythe d'Abel et Caïn, si on revient un petit peu dans nos sources mythologiques, Jacob et Ésaü, ou même les frères Karamazov, dans une littérature non pas contemporaine, mais un tout petit peu plus moderne, eh ben, en réalité, leur rivalité, c'est jamais pour une femme. C'est toujours... il est question du bien et du mal, de l'avenir de l'humanité. Et donc, on positionne leur rivalité et leur dispute à un degré, mais c'est même pas l'étage au-dessus. C'est là, on ne peut même pas rivaliser. Et ce différentiel-là, je le trouve extrêmement révélateur, et c'est ça aussi qu'il faut être en capacité d'inverser.
Vous parlez aussi, vous parliez à l'instant de la Bible, et vous parlez d'une pratique terrible qui était présente dans les mythes et dans les lois antiques, c'est le sororat. Alors, pour rappel, c'est la pratique pour un homme veuf d'épouser la sœur de son épouse défunte. C'est une pratique que Françoise Héritier a d'ailleurs analysée. Et alors, pour vous, qu'est-ce que ça raconte, cette pratique, que les sœurs sont finalement interchangeables ?
Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement, moi, c'est un élément passionnant que j'ai découvert en écrivant ce livre. Et le livre de Françoise Héritier est extrêmement éclairant à plein d'égards. Un des présupposés induits par la pratique du sororat, qui a été très controversée à travers l'histoire. Hein. On a passé notre temps, déjà c'est révélateur, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé tout au long de l'histoire sur est-ce que c'est un péché ou est-ce qu'au contraire il faut l'encourager. Et pour les défenseurs de la pratique, il s'agissait effectivement de dire pour une famille, si la mère est défunte, la mère de substitution la plus légitime, c'est sa sœur, parce qu'en réalité, ça change pas grand-chose, et puis c'est pratique, on n'a pas, voilà, c'est la même belle famille, tout ça reste en famille, et c'est bien normal. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui est peut-être plus retors encore, c'est que ceux qui étaient les tenants de l'interdiction du sororat disaient, mais il faut interdire, parce que sinon, une sœur va pouvoir souhaiter la mort de sa propre sœur pour se marier avec son mari. Et donc, si vous interdisez ça, au moins, il n'y aura plus de rivalité. Et donc, je trouve que les deux présupposés venant d'un camp comme de l'autre sont tout aussi désespérants sur ce que ça renvoie sur l'image des comportements féminins au sein d'une fratrie. Et j'évoque dans le livre, mais sur en rapportant un petit peu les paroles de Françoise Héritier, que le Parlement britannique au XIXe siècle s'est déchiré sur ces questions-là, et que, évidemment, en plus, entre hommes, pour savoir ce qu'il était légitime, toléré... ou non, et ça c'est, voilà, en termes d'anthropologie, là on sort totalement de la représentation et de la fiction. C'est assez fascinant de voir que ces débats-là ont pu animer de cette manière la communauté pendant des siècles.
Et jamais avec les bons arguments. Non. C'est l'heure d'une petite pause de nouveau. Alors vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques mois nous avions reçu la journaliste Lorraine Malka et la dessinatrice et scénariste Aurélia Horita pour parler de la relation des femmes à la nourriture à travers l'histoire. Et il y a quelques semaines, j'ai eu connaissance, grâce à Lorraine Malka, du projet hybride d'une comédienne, Solène Petit, partie pour un tour de France culinaire pour réfléchir au lien entre désir féminin, nourriture et femmes. Pour tenter de parler des femmes, de leur amour, de leur rage, de leur sexualité et de leur cœur soumis au regard et à la validation d'autrui toujours. Donc je suis allée l'interviewer au retour de ce tour de France culinaire, et alors que son spectacle hybride intitulé « Prendre corps » sera bientôt en représentation, ce sera donc une pièce de théâtre mais aussi une exposition photographique et sonore installée à Lille, et ce sera en représentation à partir du 17 octobre au Théâtre Prato. On écoute Solène Petit.
« Prendre corps », c'est un spectacle tout d'abord qui est né d'un projet qui s'appelle « Le croquis de voyage » que j'ai fait quand j'étais étudiante à l'École du Nord en tant que comédienne, et où j'étais partie faire un tour culinaire de France pour m'interroger sur le lien entre la féminité, le désir, la nourriture. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais en plein deuil amoureux. Et en revenant de ce voyage, je me suis posé la question du lien entre la viande et le patriarcat, et aussi du lien entre le deuil amoureux et la viande. Donc de tout ça est née du coup Rêverie gourmande carnée, et cette rêverie qui a donné du coup Prendre corps. Je me suis questionnée en effet sur le lien entre la féminité, le désir et la nourriture. Et il y a beaucoup de liens, en fait, que j'ai établis, mais sur plein de niveaux différents. Il y a eu d'abord cette chose, par exemple, j'ai rencontré, pour être très concrète, un bouquiniste à 7 qui m'a dit, fais attention à ne pas grossir lui aussi, et en me disant, et puis les femmes qui ont un bon coup de fourchette, c'est généralement des femmes qui, on la cuisse légère, quoi. Enfin, on va s'amuser, ça va être sympa. Et ça, je ne l'ai pas entendu qu'une fois durant mon voyage. Donc forcément, je me suis dit, c'est fou comme cette idée ancrée de « on aime manger » est liée du coup à une jouissance globale. Donc sur le désir à la fois amoureux, le désir sexuel aussi, il y a forcément ça. Et du coup, à l'inverse, je me suis aussi interrogée sur la question de qu'est-ce que ça dit une personne qui ne mange pas. Voilà, qui n'est pas dans le spectacle, mais qui du coup se retrouve plus dans l'installation, et où ça m'a questionnée par rapport à ma grand-mère. Et c'est quoi ce lien au désir ? Par exemple, ma grand-mère était une femme très désirante, adorait manger, mais se restreignait beaucoup dans ce désir-là. Donc ça aussi, c'est venu me questionner, de me dire du coup pourquoi on s'inflige en tant que femme cette restriction à ce désir qu'on peut avoir de manger. Il y a ça, il y a aussi forcément après... des parallèles, évidents aussi avec la question du sens, où je dirais il y a dans le désir, quel qu'il soit, et il y a cette question du toucher, du goût, de plein de choses, et avec la féminité, parce que la nourriture, ça c'est quand même assez clair, c'est un vrai, pour moi, lieu et sujet de combat aujourd'hui pour les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient quelque chose qui est le point de rendez-vous de plein de normes, de plein d'injonctions. Il n'y a qu'à le voir avec les injonctions contradictoires sur les slogans publicitaires, par exemple, où on nous dit « mangez, soyez libérés » et en même temps, tout de suite, on va nous dire « mangez cette barre protéinée, je dis n'importe quoi, hein, mais pour perdre ». Et avec ce jeu où on va faire manger une femme entre un yaourt, en mettant une femme très jolie, plutôt très mince. Et donc, il y a quand même un vrai sujet pour moi là-dedans. Et ça, j'en suis convaincue, depuis très longtemps. Et ça m'a ressauté aux yeux pendant ce voyage en me disant pourquoi les femmes ont-elles un rapport si pathologisé presque, je dirais, à la nourriture. Qu'est-ce qui vient se jouer en fait derrière? Et Prendre corps, c'est aussi en parallèle une installation, donc éponyme, qui est née en fait pour moi d'un désir d'aller questionner les troubles alimentaires et de continuer ma réflexion sur le lien entre genre et alimentation. Parce qu'en fait, ces troubles alimentaires, on les connaît, on pense les connaître, mais on les connaît finalement assez mal. Et moi, je ne me sentais pas de prendre en charge cette question-là dans le spectacle. Ce n'était pas vraiment le sujet, mais j'avais quand même la nécessité d'aller traiter cette question. Et en fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec une metteuse en scène qui s'appelle Bernadette Gruson. Et en lui parlant de ce désir, de cette envie, elle m'a dit « Écoute, moi, je connais un centre hospitalier qui, en fait, prend en charge, si je puis dire, des patients-patientes qui souffrent de troubles alimentaires et à la fois des personnes plus du côté de l'obésité et des personnes du côté de l'anorexie. » Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé le centre hospitalier d'Arras et en leur disant que j'avais envie d'aller questionner les troubles alimentaires et de rencontrer les patients-patientes et de leur donner la parole, en fait. Et que j'avais en germe l'idée d'un projet qui serait au final une installation photographique, sonore et textuelle, et qui serait en plusieurs temps avec d'abord des entretiens que moi, j'ai menés du coup auprès des patients-patientes du centre hospitalier. Et suite à ces entretiens, j'ai écrit beaucoup, j'ai récupéré des témoignages avec leur accord. Et ensuite, il y avait un temps du coup de séance photo avec une photographe qui s'appelle Vanda Spengler. Et Vanda est venue du coup prendre des photos de ces patients-patientes, ce qui était un vrai enjeu parce que du coup, eux aussi ont pris corps à travers toute l'année. Parce que c'est généralement des personnes qui avaient du mal avec leur image, avec aussi cette question « prendre corps », ça vient aussi parler de l'identité. Et donc, ça a été une sacrée expérience pour moi et puis pour les patients-patientes, et qui a donné une exposition qui est née du coup au centre hospitalier d'Arras en juin dernier, et là, qui va partir en tournée toute l'année prochaine.
Wuthering Heights de Kate Bush, le titre qui a lancé sa carrière en 1978 et un hommage évident aux sœurs Brontë dont nous allons reparler avec notre invité. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus, sur le 93.9 FM et nous sommes toujours avec Blanche Léridon pour parler de son essai Le château de mes sœurs.
Alors quand on est une sœur, on se retrouve souvent à partager la même chambre. Et c'est une expérience de vie marquante. Alors même si cela va un peu à l'encontre du concept de la chambre à soi chère à Virginia Woolf, pour vous, en quoi est-ce que la chambre partagée crée de l'émulation, voire de la créativité entre sœurs ?
Déjà, à mon petit niveau, je sais que mes sœurs et moi, on a toujours créé des petits spectacles, inventé des pièces de théâtre. On se prenait un petit peu pour les quatre filles du Dr March qui avaient, au dernier étage de leur maison, fabriqué de toutes pièces leurs petits chapiteaux et qui recevaient les jeunes filles du voisinage pour des représentations quasi quotidiennes. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, en grandissant et en prenant un peu de recul sur mon enfance, que si on avait été des petits garçons, on aurait peut-être été plus incités à aller jouer dehors au ballon. Et qu'en tant que fille, cette claustration dont on parlait tout à l'heure, elle m'a été très bénéfique à plusieurs niveaux, et notamment sur cette capacité à susciter notre créativité. Et quand je regarde un petit peu les histoires de sœurs bien réelles cette fois-ci, j'ai retrouvé énormément d'échos avec cette pensée-là. Et je peux en citer quelques-unes, mais quand on lit Les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et qu'on retrace un petit peu la façon dont elle a vécu son enfance avec sa petite sœur Hélène, on retrouve totalement ça. C'est-à-dire, il y avait Simone qui écrivait des histoires et puis Hélène qui en faisait les dessins. Idem pour Virginia Woolf et sa sœur Vanessa Bell. Virginia écrivait ses histoires et elle, là aussi, sa sœur en était la plus grande illustratrice. Et donc, j'aime bien voir aussi dans cette sororité, dans les sorories, le terreau d'une créativité qui se déploie ensuite bien au-delà de l'enfance.
Donc, les sœurs se soutiennent, elles s'inspirent dans leur création, vous le dites si bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des sœurs Brontë, qui sont quand même l'archétype même des sœurs artistes et créatrices ?
Bien sûr, alors là, c'est, on arrive au summum de la créativité sororale, avec quand même, on parlait des Kardashians et du frère oublié tout à l'heure. Elles aussi, elles avaient un frère, Branwell, ouais, qu'on a tendance à oublier un petit peu vite, mais tous ensemble, en réalité, ont développé leur créativité et leur rapport à l'écriture par les jeux. Quand ils étaient enfants, et ils avaient toute une panoplie de jeux, là aussi, dans leur manoir obscur de l'Angleterre, dans des conditions extrêmement dures, mais ils arrivaient à s'émanciper de la dureté de leur environnement par le jeu, par la créativité conjointe, ce qui fait que déjà très jeunes, ils avaient commis une somme absolument considérable. Ils s'étaient chacun créé des royaumes dont ils étaient les grands ordonnateurs, et ensuite chacune en particulier particulier des trois sœurs Brontë a embrassé sa propre voie littéraire cette fois, mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir, surtout quand on retrace un petit peu la généalogie de cette famille, avec deux sœurs qui sont mortes dans des conditions aussi très dures quand elles étaient à l'internat petites filles, et donc de voir à quel point, en partant de la misère et du rien, elles sont devenues les génies, je pèse mes mots, littéraires de leur temps. Alors elles sont décédées malheureusement extrêmement jeunes, toutes les trois, il n'y en a aucune qui a dépassé les 40 ans, mais en laissant quand même une œuvre absolument considérable, et là aussi je veux y voir un des arguments en faveur de mon hypothèse qui plaide pour une sororité qui renforce votre créativité.
On a évoqué les sœurs artistes maintenant, les sœurs puissantes, donc l'étape d'après c'est forcément les sœurs sorcières. Comme vous le dites très bien, le féminin pluriel est redouté, encore plus quand elles sont sorcières, et donc on va écouter un bout de générique qui moi personnellement m'est cher, d'une série que beaucoup ici reconnaîtront. C'était bien sûr le générique de la série Charmed. Blanche Léridon, vous avez une tendresse particulière pour cette série. En quoi les sœurs Halliwell vous ont marqué?
C'est plus qu'une tendresse. C'est vraiment une fascination dans l'enfance. D'ailleurs, je pense qu'on devait avoir entre 10 et 13 ans quand M6 a commencé à diffuser les aventures des sœurs Halliwell. Et c'était formidable. Moi, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il m'a toujours fallu dans mes modèles des sœurs. C'est-à-dire que jamais je me suis identifiée à des personnages de filles solitaires, autonomes. Spontanément, et ce qui paraît naturel quand on est enfant, on s'identifie beaucoup plus volontiers aux modèles qui nous ressemblent. Mais, et on en a beaucoup parlé, aucun de ces modèles n'était pleinement satisfaisant, parce que jamais, très honnêtement, je ne me suis reconnue dans les petites filles modèles, parce que c'est pas parce que vous êtes des petites filles que vous êtes épargnées par les tâches, le mauvais goût, les hurlements, loin de là. Et là, avec Charm, on avait cette chose absolument formidable de trois sœurs qui vivaient des vies a priori normales dans leur beau manoir de San Francisco, avec toutes les complexités que peuvent avoir des vies de jeunes femmes actives dans l'Amérique contemporaine, des histoires d'amour, des histoires de travail, des histoires entre elles. Et puis au-delà de ça, elles avaient ce pouvoir des trois, hérité de femme en femme dans leur famille, de leur grand-mère Penny, de leur mère, et elles avaient pour modeste ambition de combattre les forces du mal. Et mes sœurs et moi, vous dire qu'on était fascinés, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que voilà, le binge-watching avant qu'il soit nommé, nous on l'a démarré, alors sauf que c'était dans des conditions un peu différentes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas toutes les plateformes, et donc il y avait l'attente de la trilogie du samedi, où on allait pouvoir avoir un épisode supplémentaire. Et c'est vrai que ces femmes qui étaient à la fois prises dans des problèmes très contemporains, très habituels, et qui, d'un autre côté, étaient animées par ce pouvoir et qui combattaient en immense majorité des hommes, ça, c'était quelque chose de très réjouissant. Et mes sœurs et moi, on en a ensuite fait un jeu de rôle. On était chacune, Prue, Piper et Phoebe.
Vous étiez quoi?
Alors moi, j'ai été Piper au départ, parce que j'étais celle du milieu. Et puis quand Prue est décédée de façon totalement tragique et inopinée, et que Paige est arrivée et qu'elle est devenue la Benjamine de la fratrie, eh bien moi je suis devenue Phoebe, et je dois reconnaître que j'en étais particulièrement contente, parce que j'aimais pas énormément le personnage de Piper, je trouvais trop sérieuse. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'elles ont beaucoup marqué mon imaginaire, et ce que j'explique dans le livre, c'est que il y a tout un pan d'études, notamment universitaires, les Buffy studies. C'est-à-dire qu'on a fait de Buffy une espèce d'égérie féministe. Alors, je ne remets pas en cause sa position à elle, mais on a totalement sous-estimé l'impact de Charm. On l'a toujours pris un peu à la légère, on les a marginalisés, c'était un soap. Alors je reconnais, si vous regardez aujourd'hui à nouveau Charm, que ce soit les effets spéciaux, la complexité de l'intrigue, ou même la profondeur des personnages, on est quand même sur quelque chose d'assez léger. Mais quand même, c'était la première série dans l'histoire des séries américaines qui représentait de façon nette, unique, qui avait pour personnages principaux uniquement des personnages de femmes. Et ça, c'était quand même pour l'époque, je dis ça comme si je parlais d'un temps très ancien révolu, mais il faut imaginer tout ce qu'on a parcouru depuis. Après, elles ont été dépassées par Desperate Housewives, mais c'était la première série dont les seuls personnages principaux étaient celle des femmes, et pas seulement des femmes surpuissantes, qui tiraient leur puissance de leur collectif et qui combattaient des hommes. Donc, moi, je dis que pour ça, elles auraient mérité au moins leur charm studies à l'image de Buffy.
Complètement, ça aurait été mérité. Il est maintenant l'heure d'accueillir notre nouvelle chroniqueuse, Alice. Je te laisse te présenter.
Bonjour Pauline.
Salut Alice.
Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous dans l'émission. Alors moi j'ai 35 ans et dans la vie je suis chef de projet dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais je suis surtout une très grande lectrice à la découverte en fait des autrices connues ou tombées dans l'oubli.
Justement, dans ta chronique, tu vas nous faire découvrir les femmes qui ont obtenu le prix Nobel de littérature.
Exactement, je me suis lancée un défi littéraire depuis l'année dernière, qui est de découvrir les femmes qui ont eu le prix Nobel de littérature.
Et qu'est-ce qui t'a motivée dans ce défi ?
Le fait que j'étais incapable de les citer et surtout que j'en avais jamais lu une seule. C'est quand même le prix littéraire le plus prestigieux.
C'est clair, il existe depuis longtemps aussi, non ?
Depuis 1901. Et il récompense chaque année un écrivain ou une écrivaine qui a rendu de grands services à l'humanité grâce à une œuvre littéraire. Il est décerné par l'Académie suédoise, qui est en fait notre équivalent de l'Académie française.
Et alors, combien de femmes l'ont eu, ce fameux prix Nobel depuis 1901 ?
En fait, on voit que les femmes sont encore une fois très reconnues sur ce plan, puisque pour 102 hommes récompensés, seulement 17 femmes ont eu le prix Nobel de littérature, dont la plus récente est la française Annie Ernaux.
Effectivement, on est loin de la parité. Du coup, en quelle année la première femme a eu le prix Nobel ?
En fait, assez rapidement après sa création, puisque la première femme à l'avoir obtenue, c'est Selma Lagerlöf, dès 1909. Le jury lui a donné, je cite, « en hommage à l'idéalisme élevé, à la brillante imagination et au sens spirituel qui caractérise ses ouvrages ». Ce qui est intéressant, c'est que cette année, elle a été très importante pour les droits des femmes en Suède, parce qu'en 1909, la mention « homme suédois », elle est retirée des formulaires de proposition d'emploi des fonctionnaires. Et ça, ça permet aux femmes de candidater à de nombreux métiers auxquels elles n'avaient pas accès, même si elles avaient les diplômes requis. Par exemple, avant cette date, les femmes ne pouvaient pas devenir professeurs dans des universités publiques. Ce qui résonne en fait particulièrement quand on sait que Selma Lagerlöf, elle a été institutrice pendant 10 ans.
Ah, elle était institutrice, mais comment est-ce qu'elle est devenue écrivaine ?
Alors Selma, elle est née en 1858 au manoir de Marbacka en Suède. Elle se forme à l'Institut de formation d'enseignantes de Stockholm et elle devient institutrice. Et ensuite, elle devient célèbre à 32 ans dès son premier roman, La légende de Gösta Berling. Son œuvre, elle est considérée comme étant en marge de la littérature de cette époque qui était plus tournée vers le réalisme. Et elle, elle invente en fait une manière inédite d'écrire avec du merveilleux, du poétique et elle s'inspire beaucoup des contes et légendes. Donc je l'ai dit, elle est la première femme à obtenir le prix Nobel de littérature en 1909, mais elle est aussi la première femme à être élue à l'Académie suédoise en 1914. Et elle est aussi très engagée dans la lutte pour les droits des femmes. Par exemple, elle a joué un rôle très important dans l'accession au droit de vote des Suédoises obtenue en 1919. Parce que oui, Selma, elle est aussi passionnée de politique et elle n'hésite pas à utiliser sa notoriété au service de la paix et de la liberté. Elle meurt en 1940 à l'âge de 81 ans.
Et côté vie privée ?
En 1894, Selma Lagerlöf, elle rencontre l'écrivaine Sophie Elkan. Et cette rencontre, elle est en fait déterminante sur tous les plans, parce que c'est elle qui la convainc de se consacrer uniquement à la littérature.
Est-ce que tu as un de ses livres à nous recommander ?
Alors, pour la chronique, j'ai lu la version abrégée du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Il est paru en 1906 et c'est un roman universel d'apprentissage qui raconte tout simplement le voyage d'un adolescent de 14 ans qui est transformé en lutin comme punition de ses mauvaises actions. Et il s'envole sur le dos d'un jar pour accompagner les oies sauvages à travers leur périple vers la Laponie, tout en traversant la Suède. Et tout au long de ses aventures, en fait, il va découvrir la beauté de la nature, le sens du courage et de l'amitié. Et ce livre, c'est un énorme succès auprès du grand public, et il a rendu l'autrice mondialement célèbre. Et il a été traduit en français dès 1912. En version abrégée ou intégrale, en tout cas, c'est une très belle découverte d'un classique de la littérature suédoise.
Merci beaucoup Alice pour cette première chronique. On a hâte de connaître les prochaines autrices qui ont gagné le prix Nobel de littérature.
Et nous voulions terminer en parlant de deux exemples forts, un contemporain et un peu plus ancien de sœurs. Je voudrais d'abord vous parler d'un dessin animé produit par Disney en 2013 et qui a eu un succès absolument incroyable auquel même Disney ne s'attendait pas. Libérée, délivrée, les étoiles me tendent les bras. Libérée, délivrée, non je ne pleure pas. Votre honneur, oui je suis là. C'était bien sûr l'hymne de la Reine des Neiges de Disney, cadeau pour tous les parents qui connaissent cela par cœur. Blanche Léridon, vous nous avez déjà évoqué en quoi ces deux sœurs sont absolument incroyables et novatrices dans les contes pour enfants, le pouvoir des sœurs qui est bien plus important que les histoires d'amour classiques. Et on voudrait revenir sur une référence que vous faites à la fin de votre essai qui est vraiment extraordinaire. C'est une référence très ancienne. C'est en effet en 1405 que Christine de Pizan imagine une utopie féministe radicale dans la Cité des Dames. Donc c'est un monde où les femmes se rassemblent dans une citadelle, entre elles, il n'y a pas d'hommes. C'est un monde où la raison, la droiture et la justice prévalent pour que, donc je cite le texte, « les dames et autres femmes méritantes puissent désormais avoir une place forte où se retirer et se défendre ». Alors, est-ce que pour vous, la Reine des Neiges, ça poursuit un peu l'idéal de Christine de Pizan dans une utopie féministe ?
Alors, je suis ravie que vous mentionniez la Cité des Dames, parce que pour moi, c'était extrêmement réjouissant de découvrir cette référence-là, alors que moi-même, j'étais en train de construire un château pour mes sœurs, de voir que en 1405, comme vous l'avez mentionné, une autre s'était déjà attelée à bâtir avec trois déesses qui l'accompagnaient dans cette entreprise, une cité livresque uniquement dédiée aux femmes qui l'ont accompagnée. Et en même temps, ça me réjouissait, et en disant ça, ça me désespérait aussi, parce que je me disais, mon Dieu, en 1405, on a commencé, et on en est toujours là, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les travaux les plus longs de l'histoire de l'humanité, et donc nous, on tente de parachever à notre modeste mesure cet édifice, mais en réalité, on se rend compte, et c'est d'une actualité, parfois, Christine de Pizan, absolument effarante, que je prends vraiment dans son sens ambivalent, c'est-à-dire qu'on se dit, mon Dieu, une visionnaire, et en même temps, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a peu évolué depuis tout ce temps. Mais pour finir sur une note un peu optimiste, effectivement, il faut qu'on construise ces châteaux, il faut qu'on construise ces édifices qui sont physiques ou artificiels, mais qu'on propose toute cette variété de modèles différents et qu'on les associe à de l'espoir, à de la joie, à de l'amour. Et ça, c'est un petit peu notre rôle à toutes et tous, ce que j'espère que nos frères pourront aussi participer à l'édification de ce nouveau château. Je suis convaincue qu'on en sera tous les grands bénéficiaires.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Blanche Léridon d'avoir commencé la saison avec nous. On était très heureuse de vous avoir avec nous. On rappelle que votre ouvrage, votre enquête, Le château de mes sœurs des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines aux éditions Les Pérégrines, est à retrouver en librairie. Merci à toutes et à tous. Je t'ai pris ton paragraphe. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vas-y, enchaîne.
On revient le 29 octobre pour une nouvelle émission avec la rappeuse et chanteuse T comme Thérèse. On parlera de son combat antiraciste et antisexiste à travers son art. Merci Pauline pour l'invitation. Merci à nos chroniqueuses Chloé et Alice et à notre réalisatrice Gabrielle. On se retrouve le 29 octobre. En attendant, prenez soin de vous. Salut.
Merci. Salut.